l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Catus 92.5.
À quelques jours de la rentrée scolaire, à quelques jours, même si demain la rentrée scolaire, on souhaite bien sûr une bonne rentrée à tous les professeurs, les instituteurs qui ont redémarré aujourd'hui. 31 août, voilà, dernier jour du mois d'août de cette année 2026, avec un temps beaucoup plus clément, des températures qui sont respirables. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, on parlera d'une conférence sur Lourdes et les papes que va être donnée par le docteur Di Francesi. Je serai avec lui par téléphone dans quelques instants. Et puis, on recevra sûrement le plus grand pyrénéiste, monsieur De Belfond, Patrice De Belfond, et qui viendra nous parler d'un film qui lui est consacré. C'est un film qui lui a été proposé. Au départ, il a refusé, puis s'il s'est convaincu, on parlera de ce film qui retrace toute sa carrière. Et puis, comme d'habitude, nous aurons monsieur Pinard qui sera monsieur et madame Pinard qui sera au micro de Mathias Terrier pour passage à Lourdes. Allez, c'est le début de la semaine, on retrouve tout de suite le docteur Di Francesi.
Radio Présence à Castelsarrasin 93.3.
À quelques semaines de la venue du pape Léon XIV à Lourdes, le 26 et 27 septembre prochain, nous allons nous intéresser aux liens très particuliers qui unissent depuis les apparitions de 1858 les différents papes à la cité mariale. C'est justement le thème d'une conférence organisée par le Rotary Club de Lourdes lundi 7 septembre à la cité Saint-Pierre, une soirée qui aura également une dimension solidaire puisque les bénéfices permettront de financer des équipements destinés à améliorer l'accueil et le confort des enfants malades à Lourdes. Et pour nous en parler, nous recevons le docteur Alessandro De Francesi, ancien président du bureau de constatation médicale de Lourdes, qui animera cette conférence. Bonjour docteur.
Et bonjour à vous et à nos auditeurs.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous allez donc tenir cette conférence sur les papes et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Les papes et Lourdes, quoi?
Oui, préalablement, j'aimerais dire, en tant que membre du Rotary Club international depuis presque toujours dans ma vie professionnelle, en Italie d'avant et après ici à Lourdes, que le Rotary a comme but principal le service, servir les autres. Donc des actions rotariennes sont menées de partout dans le monde pour aider des gens en difficulté, en tout cas des gens qui ont besoin. Dans le cas spécifique, l'idée est venue devant un événement historique, la visite d'un pape à Lourdes n'est pas tellement fréquente, de la lier à une action rotarienne d'aide. Et donc justement, il m'a été demandé de préparer une conférence, chose que je ferai à la cité Saint-Pierre, au Carme, c'est-à-dire aux pyramides, oui, de la cité Saint-Pierre, lundi soir 7 septembre à 20h pile. Et évidemment de la faire, mais en sachant qu'on demandera aux gens qui viennent de donner une toute petite cotisation. On peut le faire aussi à distance et par email. On peut s'inscrire donc à la conférence. Et donc le bénéfice de cette conférence sera donné intégralement à l'accueil Notre-Dame, donc au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, parce qu'il puisse améliorer, en tout cas, notre capacité et notre qualité d'accueil d'enfants malades. Là, c'était ma proposition en étant un ancien pédiatre. Et donc, voilà le pourquoi. Pourquoi, la deuxième chose que je peux vous dire, pourquoi les papes? Alors, oui, les papes à Lourdes sont venus en visite. On n'a reçu que pour le moment deux, c'est-à-dire le pape Jean-Paul II, qui est venu deux fois en 1983 et en 2004, en conditions bien différentes. Fort et vigoureux en 83, et désormais à la fin de sa vie fatigué, c'est son dernier voyage hors Rome en 2004. Et après, on a reçu le pape Benoît XVI en 2008. Le pape Léon XIV, qui viendra donc le week-end du 26 et 27 septembre, oui. C'est le troisième pape qui vient à Lourdes, et c'est la quatrième visite d'un pape à la grotte. Mais je ne sais pas si la plus grande part du public, à partir des Lourdais, hein, des habitants de Lourdes et des alentours, savent qu'en réalité, Lourdes est à l'attention de tous les souverains pontifes depuis les apparitions. Et donc, on parlera à partir justement de l'attention que Pie IX avait donnée à l'Immaculée Conception en arrivant à le prononcer le dogme, oui. À Léon XIII, son successeur, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je présenterai en vitesse, dans l'espace de quelqu'un avec très peu de diapos, je présenterai en vitesse les contributions, les honneurs qu'ont rendus, les privilèges qu'ont concédés les différentes papes à une succession ininterrompue de Pie IX jusqu'à aujourd'hui. Et là, je trouve que ça intéressant parce qu'on va découvrir pas mal de choses et l'attention des papes, notamment, je dirais, de la datation de certains documents que les papes ont voulu dater qu'à 11 février, l'attention portée à la voyante, la petite Bernadette Soubérousse, très rapidement béatifiée et canonisée, c'est-à-dire rendue sainte par la Sainte Église, les déplacements qui ont fait à partir des papes qui étaient venus à Lourdes avant d'être élus pape, dont peut-être le plus connu, c'est effectivement le cardinal Roncalli, qui viendra consacrer la basilique souterraine dédiée à Saint Pie X en 1958 pour la célébration du centenaire du sanctuaire de Lourdes, et en réalité, la fin de l'année même, ça a élu pape Jean XXIII, etc. Donc je pense qu'il y a de l'intérêt pour montrer cet attachement des papes à la ville de Lourdes en conséquence du sanctuaire. C'est pour ça que nous avons accueilli avec immense plaisir la présence de M. le maire et de l'administration, et en même temps du sanctuaire qui, encore aujourd'hui, grâce à cette visite du pape Léon XIV, reste à l'attention universelle. Et là, je salue la présence et l'acceptation de l'invitation du père recteur, le père Dauban, qui a assuré sa présence.
Donc cette conférence, bien sûr, ben vous allez nous plonger un peu, effectivement, à quelques jours, à quelques semaines, ben, effectivement, de l'arrivée du pape Léon XIV à Lourdes, dans cette ambiance papale, où il y a aussi une reproduction de la grotte de Lourdes, carrément dans les jardins du Vatican.
Ah oui, tout à fait. Et là, je présenterai quelques détails, peut-être non connus, sous les travaux de la réalisation de la grotte des apparitions en reproduction, qui d'ailleurs c'est un projet du 19e, fin 19e, début 20e siècle, c'est donc un projet artificiel, c'était pas une grotte réelle qui existait là dans les jardins du Vatican, et en même temps à beaucoup d'autres choses, parce que l'Immaculée Conception elle-même, c'est un culte et une dévotion des catholiques qui était depuis toujours, je dirais, des premiers siècles du christianisme, mais ils deviennent un dogme, c'est-à-dire une véritable foi, effectivement avec Pie IX, à la suite des apparitions de la Vierge à la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. Donc il y a toute une sorte de lien que je vais essayer, j'espère de réussir, à montrer sans trop fatiguer le public. Je pense que c'est intéressant, franchement, oui.
Ouais, intéressant. Donc, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir une connaissance un peu poussée dans la religion?
Non. C'est absolument dans l'intérêt historique et laïque. Donc, le Rotary, d'abord, c'est une association absolument laïque et non religieuse, donc ouverte à tout le monde. Et on respecte ça. Mais dans le cas échéant, du fait que le pape est aussi le souverain d'un État reconnu par la communauté des nations du monde, s'agit d'une visite d'un chef d'État. Oui. Et d'abord, le pape, justement, démarre avec une visite d'État à la République française à Paris, et après, ensuite, à l'Église de France, en commençant par la capitale qui est Paris, la cathédrale de Notre-Dame, pour revenir à le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes et passer une journée entière à Lourdes. Donc, c'est absolument non confessionnel, mais sans doute de grand intérêt. Moi, je connais des détails des événements historiques du président de Gaulle et des différents présidents de la République française, je suis sûr que des citoyennes non croyants ou non pratiquants seront intéressées à connaître des détails de ces pontifes qui ont rendu, comme je vais dire, célèbre dans le monde le nom de Lourdes.
Effectivement. Non, mais écoutez, on va redonner la date, le lieu de cette conférence.
Oui, c'est le 7 septembre, lundi soir à 20h, à la cité Saint-Pierre, aux pyramides, nous l'appelons.
La salle du Carme, voilà, tout à fait.
La salle du Carme. et là, il y aura un secrétariat pour accueillir, parce qu'on demandera aux gens qui viennent par curiosité de donner même 50 centimes ou un petit euro pour montrer que chacun viendra en style de pèlerin. Le pape vient en pèlerin à la grotte de Lourdes. Les gens qui sont intéressés à savoir un peu plus viendront en style de pèlerin à notre conférence. Et comme j'ai dit, le bénéfice total et intégralement sera consigné au sanctuaire pour faire un don, pour mieux accueillir les enfants malades à l'accueil Notre-Dame.
À l'accueil de train. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment une conférence sur l'histoire. Vous allez nous donner des anecdotes assez intéressantes pour aussi comprendre l'intérêt qu'ont les papes pour Lourdes. Et puis, on fait aussi une œuvre charitable pour améliorer l'accueil des enfants
tout
malades à Lourdes et au sanctuaire.
Tout à fait.
Merci beaucoup, docteur Di Francis.
Merci à vous de l'intérêt. Merci.
Puis, on invite tous les auditeurs à venir nombreux, à venir vous écouter donc à cette conférence. Lundi 7 septembre, à partir de 20h, à la salle du Cairn, à la cité Saint-Pierre, au-dessus du sanctuaire, sur les hauteurs du Béout. Voilà. Merci beaucoup, docteur.
À bientôt. Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée.
Présence à Gourdon, 104.8.
Vent debout. Difficile d'imaginer meilleur titre pour raconter mon invité, un invité prestigieux. J'ai eu la chance d'ailleurs de faire des chroniques avec lui pendant quelques années. Et mon invité, c'est Patrice de Belfond. Bonjour Patrice.
Bonjour Philippe.
Guide de haute montagne, figure emblématique du pyrénéisme, écrivain, voyageur et homme d'engagement. Il a consacré une grande partie de sa vie aux Pyrénées, allant jusqu'à jouer un rôle majeur dans la reconnaissance de Pyrénées-Montperdu au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réalisatrice Laurence Fleury lui a consacré aujourd'hui un documentaire donc qui s'appelle « Vent debout », Patrice de Belfond, itinéraire d'un guide engagé. Un film qui raconte bien sûr l'alpinisme, ses aventures, mais surtout le cheminement d'un homme dont le regard sur la montagne, sur les hommes et sur le monde n'a cessé d'évoluer. Et cet homme est aujourd'hui donc notre invité. Merci Patrice de Belfond.
Et c'est moi qui vous remercie.
Oui. D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je pense, aujourd'hui à 88 ans, vous savez, au jour où on enregistre cette chronique. Vous êtes, je pense, une figure légendaire du pyrénéisme ici, dans notre région. Quand la réalisatrice donc vient vous voir, Laurence Fleury, et qui veut faire un film, un documentaire sur vous, quelle était votre réaction ?
Ah ben, elle le raconte dans le film. bon, j'ai dit non, c'est pas la peine. Et même mon épouse Françoise lui avait dit « Ah, mais si tu fais ce film, je divorce.
» Bon.
On devait avoir 84 ou 85 ans. Alors. C'était plutôt une plaisanterie. Mais finalement, alors d'ailleurs, au début, elle le raconte dans
le film.
Et
comment vous avez réussi à vous convaincre alors ?
Au début, elle m'a dit « On va faire de la montagne ensemble. » Et puis elle faisait des photos. Mais non, en fait, moi, j'étais naïf. Mon appareil photo, c'était une caméra.
D'accord. Elle vous filmait un peu à l'issue de votre plein gré.
Exactement. Puis petit à petit, bon...
Elle vous a apprivoisé.
Exactement. Voilà le mot.
Elle vous a apprivoisé. Je sais que vous n'aimez pas forcément qu'on parle de vous. Pourtant, vous êtes une... Le mot n'est pas... Vous êtes une légende.
Oui.
Vous avez une expertise. Et puis, on le disait, on vous doit quand même cette double reconnaissance du patrimoine mondial de l'UNESCO avec Gavarnie-Montperdu.
Ah ben ça, évidemment, c'est un de mes grands succès de ma vie, avec peut-être aussi, puisqu'on c'est évoqué dans le film, l'organisation définitive du sauvetage de Bernard Baudéan, aux aiguilles en Sabère. Alors, bon, ben, écoutez, je suis obligé quand même d'exprimer un peu de regret dans la manière dont le patrimoine est perçu, ce patrimoine exceptionel. Il n'y en a que 39 ou 40 sur la planète. Il n'y en a qu'un en France. Il y en a un depuis, aussi, qui a une double qualification, dans une île du Pacifique qui appartient à la France, dont je ne peux pas vous dire le nom, quoi.
D'accord.
Dans les îles Marquises ou chose comme ça. Bon, enfin, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et on n'en prend pas la mesure exacte, en particulier dans notre département et peut-être même les locaux.
Je vous ai fait un peu réagir tout à l'heure quand je vous disais c'est un label. Alors là, vous avez de suite réagi, ah non, ce n'est pas un label. Et pourtant, on a l'impression que c'est devenu juste un argument marketing.
En particulier...
En France, vous me disiez.
Bon, c'est beaucoup de pays hein, qui ont cette attitude, mais en France en particulier, l'actualité patrimoniale, si on peut dire, et les recherches de qualification ou de justement de valeur touristique. Bon, alors, en fait, un patrimoine mondial n'a pas un objectif touristique. Au contraire, d'ailleurs, quand on devient un bien de l'humanité, parce qu'il s'agit de ça, quand on est un patrimoine mondial, on devient un bien de l'humanité. C'est quelque chose qu'on préserve pour toute l'humanité. Eh bien, il ne s'agit pas d'être contre le tourisme, il s'agit de le maîtriser. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'économistes à courte vue, maîtriser le tourisme, ça ne veut pas dire diminuer les apports du tourisme. Bien souvent, trop de tourisme tue le tourisme. Et il est évident qu'un séjour organisé autour d'une découverte importante, qui suppose un séjour, c'est beaucoup plus fructueux pour les locaux qu'un simple passage, visite, on boit une bière et on s'en va. C'est, voilà.
Vous disiez souvent que aujourd'hui, la montagne se consomme beaucoup plus depuis le Covid, où les gens se sont retrouvés après le Covid à vouloir aller dans des espaces un peu isolés, un peu seuls, et c'est devenu un parc d'attractions assez ouvert. Mais j'ai l'impression qu'on vient voir juste des paysages, mais qu'on ne cherche pas la signification et surtout les gens qui vivaient là. Alors, la coutume. Parce que vous voulez. Il n'y a pas que les paysages.
Écoutez, si, je vais parler des paysages. Je vous rappelle que j'ai été 24 ans membre de la Commission supérieure des sites et paysages.
D'accord. Donc, voilà,
hein. Eh bien, vous touchez du doigt là un concept un peu plus récent, mal interprété en France, et dont on n'a pas compris. C'est le paysage culturel. Un paysage qui n'intègre pas son histoire, son héritage, sa dimension culturelle n'est plus un vrai paysage pour les gens qui réfléchissent sérieusement au paysage. Et donc, quand justement on transforme un milieu aussi précieux que le milieu montagnard, et l'actualité climatique déjà nous le dit d'un certain point de vue, pour n'en faire que j'ai une espèce de parcours touristique, on va à l'encontre de l'esprit des lieux, et de mon point de vue, effectivement, on commet une grave erreur, en tout cas pour le devenir des gens qui vivent dans ces milieux.
Voilà. Vous avez été guide de haute montagne pendant une grande partie de votre vie. Est-ce que vous ne faisiez pas aussi cette erreur à une époque ?
Ah ben, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Vous voulez me pousser dans mes retranchements ?
Non, pas du tout.
Si, ça m'intéresse. Bon, d'abord, je le dis dans le film. Il est évident que compte tenu de la situation, maintenant, je ne traverserai pas l'Atlantique et tout un continent pour aller grimper une montagne si belle soit-elle. Voilà. Il faut prendre conscience qu'il faut avoir un profond changement culturel si on veut sauver, la vie humaine sur Terre. Écoutez, je crois que même les derniers papes eux-mêmes souligne cette nécessité.
Vous aviez dit même que l'encyclique du pape François...
De Léon XIV aussi.
Était absolument incroyable, et vous disiez que tous les écologistes devraient...
Absolument, ça. Alors là, c'est percutant, c'est d'avant-garde, et en plus l'habileté qu'il a eue, et qui est peut-être un peu plus évidente chez lui que chez le pape actuel, c'est que... Et il a une écriture qui s'adresse même aux profanes, même aux gens qui sont pas croyants, quoi. Il s'adresse vraiment à l'univers humain, quoi.
Donc c'est à lire d'après vous, hein?
Hein?
C'est à lire.
Et absolument.
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 D'accord. c'est le document peut-être de référence sur l'écologie. C'est un pape qui l'a écrit pour vous.
Ah, pour moi, oui. Ah, pas que lui.
Oui.
Il faut pas oublier quand même le précurseur en Jonas, le philosophe allemand, et puis d'autres, un géographe français. Il s'appelle Éric Dardel aussi, qui avait fait des choses dès 1960, qui était assez d'avant-garde à l'époque, quoi. Voilà. Mais c'est-à-dire que je fais la différence entre une approche écologique très, très prospective et ce que j'appelle l'écologie parcellaire, qui est très importante, qu'il faut faire quand on défend sa forêt, qu'on préserve l'intégrité d'un paysage avec son lac, ceci, cela. Tout ça, c'est très, très, très important parce que c'est du pratique. Mais, en amont, il faut avoir une réflexion comme la décrivent les gens que nous venons de citer.
On revient sur le DVD, sur votre film qui est consacré à vous. Donc, bien sûr, on raconte votre vie hein, à travers ce film. Mais quand vous avez accepté, vous aviez un message derrière. Vous vouliez laisser quelque chose. Hein, puisqu'on fait un documentaire sur vous, est-ce qu'il y avait un message précis que vous vouliez faire passer ? On vous a souvent un peu... mis comme sur étiquette le râleur,
Non, non, ça c'est des légendes.
C'est des légendes.
Dès qu'on approche la vérité ou qu'on dit des choses, ben, on le dit avec fermeté, c'est pas forcément râler, hein, c'est défendre un point de vue.
Oui.
Non, mais ça, je veux pas être un râleur. Alors, oui, ben, le message que je perçois au terme de ma carrière, et puis j'espère continuer encore un peu pratiquer la montagne, c'est que dans la nécessité d'un profond changement culturel, il faut aussi aborder le changement des aspirations alpinistiques.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que, alors je vais utiliser un mot un peu savant, l'alpinisme doit se rapprocher du pancalisme, c'est-à-dire mettre en avant la beauté, quoi. D'ailleurs, je le dis dans le film, je condamne, il ne faut pas exagérer, je dis que je regrette dans le livre des 100 plus belles courses d'avoir mis le piton de l'embaradère, les piliers de l'embaradère, comme la centième d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était, comme je dis, j'emploie ce mot, c'était une carte de visite, comme quoi on était excellent, très très bon, au point de vue esthétique, au point de vue découverte, au point de vue être dans la nature, ce n'est qu'un combat et une carte de visite. Alors que si on fait la traversée des quatre pointes de l'Osso, qui est une ascension, une course, disons, infiniment moins difficile, quand même sérieux, c'est magnifique. On traverse tout un massif, on découvre ce qu'est la montagne, on a des perspectives. Voilà. Alors, ça m'a conduit même, je veux bien que ce soit considéré comme excessif, à la réflexion de Bertrand Russell, pas le nôtre, pas le...
Pas Paris.
Mais ils sont un peu d'origine, même origine. Russell, pyrénéen, c'est d'origine catholique, donc ils sont allés en Irlande, alors que Bertrand Russell, qui ont les mêmes aïeux, c'est l'origine protestante qui est restée en Angleterre. Bertrand Russell dit « L'actuelle organisation compétitive de nos sociétés, fait beaucoup pour valoriser les plus mauvais éléments de la nature humaine. » Et ça, je crois que c'est très vrai. Alors ça ne condamne pas la compétition aimable. Ça condamne ce que je veux dire amateur, disons. La compétition qui est une recherche de faire mieux, c'est tout. Mais après, quand ça devient justement l'animosité, et quand ça devient être le meilleur, tout ça, ben ça nous conduit à des excès, des excès qui concernent d'ailleurs l'avenir de la planète. Moi, je suis assez hostile à tous ces championnats du monde de football qui déplacent des milliers de spectateurs en avion, qui sont un peu abusés par la publicité, de mon point de vue. Autres Jeux Olympiques, même, qui sont devenus des concours professionnels. Si on veut changer de culture, il faut réviser tout ça. Et dans la pratique de l'alpinisme, il n'y a pas de raison qu'on y échappe.
Pour vous, aujourd'hui, faire de l'alpinisme, est-ce que, on le voit, hein, il y a des courses qui sont organisées, pas plus tard que, il n'y a pas très longtemps, il y avait des courses de 80 km, il y a le Tour des Lacs.
C'est pas tout à fait l'alpinisme,
Oui, il n'y a pas d'escalade. Mmh. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas chercher simplement une épreuve physique? C'est-à-dire que la montagne nous a des reliefs qu'il faut aborder en courant ou en marchant, mais on passe, voilà, c'est juste un stand d'entraînement et non pas, on ne s'arrête pas, on ne contemple pas, on y va pour souffrir, pour faire un dépassement de soi sûrement, mais ça reste au niveau physique.
Alors, le dépassement de soi ne doit pas forcément souffrir, il doit satisfaire.
Oui.
Mais celui dont vous parlez, oui. Alors, mais non, actuellement, là, il y a, et d'ailleurs, Catherine Destivelle est un peu en pointe, là, hein, on préconise, il y a des gens qui préconisent que l'alpinisme devienne une compétition officielle, et avec, les grands alpinistes devront faire des parcours impressionnants, ils seront accompagnés d'un routeur pour la météo, comme les traversées de l'Atlantique, avec une préparation psychologique, une préparation physique spécifique, avec des entraîneurs, pour être plus performant. Non, alors ça, moi, ça, j'ai effectivement, je condamne d'une manière totale.
Alors, l'alpinisme
est un peu plus qu'un sport. C'est aussi quand même une manière d'aborder la nature. Alors que moi, avec ma génération, je me sois trompé, c'est pas une raison pour continuer de se tromper.
Ce film, quand vous l'avez tourné, vous avez fait des séquences avec la réalisatrice. Elle vous a demandé, vous l'avez vu avant sa diffusion ou vous avez été invité et vous avez vu le film en même temps que les autres?
Ah, j'ai vu le film en même temps que les autres. La première projection, qui a été d'ailleurs un succès, à Lourdes. Là, c'était organisé par les amis du musée.
D'accord.
Du Château Fort. Hein.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir un documentaire qui vous était consacré?
Oh ben, ça m'a étonné surtout. Mais ça, j'étais déjà étonné par l'idée. Après, ben, je m'étais acclimaté à l'idée que ça allait se faire et que donc c'était fait. Voilà.
Vous avez été dans plusieurs endroits, dont un à Pibrac, où vous avez cassé la baraque.
Ah, à Pibrac, on n'a pas cassé la baraque. On a été étonné que dans cette banlieue toulousaine, dans un... Laurence aussi, d'ailleurs, elle a été très surprise. Et satisfaite, parce que justement, on était un peu en marge. C'est un festival de haute montagne. Et donc, le sujet essentiel, c'est les exploits, un peu souvent, même parfois, chez Guérin, les tragédies. je parle de l'éditeur. Et là, notre film, on était tout à fait en dehors de ce système, et on a eu un succès complètement inattendu, surtout dans la banlieue toulousaine, parce que c'était essentiellement des Toulousains qui étaient là, enfin des urbains en quelque sorte. On a été très surpris par l'enthousiasme qu'ils ont manifesté. Voilà. Et c'est donc un peu un optimisme malgré tout, parce que il y a des gens, on ne les entend pas trop, sauf dans des occasions comme ça, qui se rapprochent un peu, pour ma part, des idées que j'adopte.
On va arriver au terme de cet entretien, Patrice de Belfond. Quel est votre plus grand regret de ne pas avoir fait pendant votre vie? Et le deuxième, votre plus grande fierté? Est-ce que cette double reconnaissance reste quand même dans votre vie ce qui aura été un combat et
Alors, regret.
Est-ce qu'il y a...
Ou j'en ai trop ou j'en ai pas.
D'accord.
mes plus grands succès, je le dis, c'est l'inscription au patrimoine mondial, ça c'est clair. Et puis aussi, alors, j'espère ne pas remettre de l'huile sur le feu, j'espère ne pas François Bernard, non mais je ne pense pas. Effectivement, j'ai conscience, et d'ailleurs dans le film Pierre Ravier, qui est très proche de mes idées, malgré tout leur succès en montagne, le reconnaît, hein. Il le dit pratiquement. J'ai complètement modifié l'approche du secours de Bernard Baudéan, qui était coincé dans la neige des aiguilles en Savère depuis 3 jours, en faisant un coup de poing sur la table. Comme il dit, ça je crois que c'est vrai, j'en ai pas le souvenir, désormais on m'écoute, c'est moi qui commande.
D'accord. Racontez-nous un peu, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette anecdote, de ce que vous nous racontez là.
Alors, mais c'était Bernard Baudéen qu'on avait vu quelques jours avant. À l'époque, j'habitais Naï, là, et ma femme était kinésithérapeute à Naï, et j'étais venu nous voir, là, comme jeune alpiniste, qui venait voir un aîné prestigieux. Et puis, ils sont partis faire une course en hiver aux aiguilles en Sabère. Ils ont peut-être commis une maladresse ou non, j'en sais rien. Enfin, si, déjà, le piton a lâché quand il descendait à rappel. Et donc, il est resté coincé tout seul, son compagnon étant tombé en bas de la paroi. 3-4 jours, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors, il se tenait dans un petit névé suspendu, les mains enfoncées dans la neige. Et les secours en montagne, à l'époque, étaient dirigés, entre guillemets, par des amateurs. C'était la compagnie, comme ça s'appelait, la société de secours en montagne, etc. Et souvent, ces amateurs, écoutez, là, en l'occurrence, je vais être bref, ils ont été parfaitement maladroits dans leur organisation, etc. Et ça, Bernard, il a tout à fait raison d'insister là-dessus. La conséquence de ce drame, qui s'est bien achevé, heureusement pour Bernard, c'est qu'il y a eu une révolution complète de l'approche des secours en montagne, en les confiant désormais d'une façon totale à des professionnels, qu'ils soient gendarmes ou CRS. Voilà.
D'accord.
Avec des techniciens,
le début du BGHM et tout ça. Ouais,
voilà. Et en mettant les amateurs, pas forcément très compétents, à l'écart. Quoi. Voilà. Ça a été la révolution. Alors, en quelque sorte, en deux mots, on peut dire, cette révolution, elle a eu lieu dans les Alpes avec Vincent Don et Henri, et elle a eu lieu dans les Pyrénées avec le secours de Bernard Baudéan, Aiguillon-Savert.
D'accord. Merci beaucoup, Patrice de Belfond. On aurait tellement à apprendre de vous. Vous avez été auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes aujourd'hui donc le héros, hein, d'un documentaire sur votre vie. On le disait au début de cet entretien, vous êtes une légende pour l'alpinisme, pour ici. Vous avez écrit plusieurs livres. Et donc aujourd'hui, ce documentaire. Ce documentaire donc s'appelle Vent debout. Il suffit peut-être de le taper sur un moteur de recherche et vous pouvez vous le procurer. Il est en format DVD, 20 €, le DVD. Il est en vente à suivant les projections qu'il peut y avoir dans notre région. Voilà. Et on peut le commander, je pense, sur Internet.
À Laurence Fleury, évidemment.
Voilà, et Laurence Fleury.
La cinéaste, quoi.
La cinéaste, donc, qui, connue d'ailleurs et qui a fait des documentaires aussi sur Arte, hein.
Mais qui a fait une excellente, qui mérite d'être plus. D'ailleurs, je crois que maintenant, elle bénéficie d'une certaine renommée et elle trouve des boulots très intéressants sur notre cordillère.
Très bien. Un grand merci. La prochaine fois qu'on se reverra, Patrice de Belfond, on parlera d'un nouveau bébé. Cette fois-ci, c'est un livre. Hein. Vous avez écrit la préface.
J'ai écrit la préface et deux articles.
Et deux articles dedans.
Ben, évidemment, l'article qui concerne le patrimoine mondial, ça va de soi. Et un article que j'ai appelé « Le Canigou, montagne d'un peuple ». Voilà. Parce que j'ai bien aussi connu, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire du Canigou et de la Catalogne.
Merci beaucoup, Patrice de Belfond. Toujours passionnant et toujours trop court lorsqu'on vous a à ce micro. On se retrouve très bientôt. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise et Michel. Marie-Françoise et Michel Panhard, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous recevoir avec l'instrument de Michel, la guitare que l'on voit à l'écran et que nos auditeurs vont pouvoir écouter dans quelques minutes, parce que vous êtes auteur, compositeur. Votre vie est marquée par la musique. Peut-être que d'ailleurs, c'est un fil conducteur, l'évangélisation par le chant et la musique. Peut-être. En tout cas, vous avez beaucoup composé, accompagné même les petits et les grands sur ce plan-là. On va raconter l'histoire de votre vie qui est traversée depuis 2016 par ce qui est un choc. Sans doute, vous nous le direz, la découverte pour vous, Michel, de la maladie de Parkinson. Et donc, vous allez aussi nous décrire votre vie de couple, votre vie ensemble avec cette nouvelle donne, qui n'est pas rien quand même, toute cette phase du déni, et puis la renaissance, et la foi qui va s'exprimer à travers cette souffrance. Michel, vous avez exercé le métier d'infirmier. Ça a marqué aussi votre vie. Quant à vous, Marie-Françoise, vous avez été éducatrice spécialisée, maman au foyer. Vous avez 6 enfants. Et des petits-enfants ?
12.
12 petits-enfants. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que malgré la foi qui vous habite depuis longtemps, lorsqu'en 2016, vous découvrez la maladie de Parkinson qui va vous ronger d'une certaine façon, ou va en tout cas vous diminuer, vous êtes dans une incompréhension, un déni. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, c'est un choc. C'est un choc. Ça a été un choc pour moi. Moi qui étais infirmier, qui accompagnait les personnes pendant très très longtemps, je suis passé de soignant à patient, tout d'un coup. Et j'avais une image très négative de la maladie de Parkinson, parce que les personnes qu'on avait à l'hôpital étaient des personnes qui, avec des symptômes bien, bien avancés. Et j'avais cette image-là, j'avais pas l'image de parkinsonien heureux. Ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Il a fallu une rencontre providentielle avec des membres de l'association France Parkinson pour changer mon regard.
C'est notamment une veillée à laquelle vous participez.
Oui, une veillée de. C'était un congrès à l'hôpital de Grenoble. À l'entracte, une trentaine de personnes, hommes et femmes, se sont mises à danser. Avec un petit orchestre qui jouait il y avait trois instruments, dont deux médecins qui étaient aussi atteints de la maladie de Parkinson. Et ils ont montré une joie, une souplesse. Ils étaient heureux, ça se voyait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de voir là, cette joie qui habitait toutes ces personnes-là. Alors, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé mon regard sur la maladie. Je me suis dit, mais moi aussi, je peux être heureux. Voilà. Et quand je suis rentré le soir, enfin avant de partir, je suis allé voir la responsable. Et je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on se rencontre. Elle m'a dit, on s'est donné rendez-vous pour la semaine d'après. Et j'avais entre-temps composé, la nuit qui a suivi cette rencontre, une chanson pour exprimer ce que j'avais reçu. Et le refrain, c'était ça. Lève-toi, éveille-toi, fais de ta vie un chant de joie. La tristesse se chasse là, qu'elle ne gagne pas sur toi. C'était vraiment un changement.
Marie-Françoise, évidemment, Michel a beaucoup changé. Il y a les questions physiques, les symptômes physiques de la maladie, dont on pourra parler au cours de cette émission. Mais est-ce que vous diriez qu'aussi, c'est une vie nouvelle, un caractère qui se refaçonne, qui change avec cette maladie ?
Oui, tout à fait. Le caractère change. Alors, déjà avec la maladie, il y a une émotivité exacerbée. Et donc, on le voit, les larmes qui viennent facilement. Après, Michel a toujours été assez émotif, mais là, c'était...
Plus.
Voilà, multiplié. Et puis après, alors, je ne sais pas si ce sont les symptômes de la maladie ou si c'est l'effet des médicaments. Le caractère change. Et Michel était plutôt en retrait, plutôt un peu discret. Et maintenant, il est assez désinhibé. Par exemple.
Il y a un côté, je peux avancer, j'ose.
Voilà, oui. Il ose, par exemple, aborder les voisins et leur dire « Ah, ça a l'air sympa chez vous !»
Et du coup... Michel, vous rendez compte de ça, que vous avez changé ?
Oui, enfin, je suis beaucoup plus simple qu'avant.
Vous diriez que vous êtes plus simple ?
Oui, voilà, je vois les choses avec beaucoup plus de simplicité. J'aborde les gens avec beaucoup plus de confiance aussi, d'aller vers eux. Avant, j'étais en retrait, c'est vrai ce que dit mon épouse Marie-Françoise. Et ça m'est même arrivé des fois d'aller à la pêche avec ma guitare. Je dis, si je rencontre des gens, je vais leur chanter des chansons. Et un jour, on était en campé, puis je dis, tiens, je vais aller faire un tour avec ma guitare. Et je rencontre des gens qui étaient à se reposer. Il y avait une trentaine de marcheurs qui étaient assis à se reposer. Je priais, puis je me dis, Seigneur, si tu veux que je leur chante des chants, donne-moi un signe. Et quand, au moment de passer, il y en a un qui dit comme ça, « Ah, vous pouvez pas nous jouer un petit air de musique ?» Alors, je dis, « Ça pouvait pas mieux tomber. » Je dis, « Ben, d'accord. » Alors, je m'arrête. Ben, je dis, « D'accord, je vais vous jouer un air de musique. Même, je vais vous chanter des chansons. » Il était très étonné. Et j'ai pris ma guitare et j'ai chanté 3 chansons. Et après, ils ont demandé leur prénom et d'où à chacun. Et je me suis présenté, je lui ai dit que je venais de Lourdes. Et c'est là qu'après que j'aurais dit, ben, quand je vais rentrer à Lourdes, je vais mettre un cierge pour votre groupe, pour chacun de vous. Et je dirai une prière pour chacun de vous. Et ils sont tous restés un peu étonnés. Mais ça les a beaucoup touchés, en fin de compte. Je continue ma route, et puis je m'assois dans un endroit, je continue à chanter, tout seul. Et je me suis aperçu à la fin qu'il y avait 2 personnes qui m'écoutaient, qui sont venus me dire merci pour les chansons. Voilà. Donc, c'est des choses que je fais facilement maintenant, de chanter.
Michel, on aura l'occasion, avec Marie-Françoise, de dans la deuxième partie de cette émission, de parler d'évangélisation, parce que la foi, la vie spirituelle, ça traverse toute votre vie. C'est très important. Oui. Mais il y a une chose qui nous étonne, qui m'étonne lorsque je vous vois là depuis quelques minutes, c'est que vous avez de la joie dans le regard. Vous avez le sourire, il y a quelque chose qui rayonne. Ça peut paraître un peu paradoxal et même compliqué à comprendre pour des gens qui nous écoutent peut-être et qui nous voient, qui sont dans une souffrance, qui les révolte, qui les empêche même de vivre, qui les enferme. On a l'impression que pour vous, alors permettez-moi de vous provoquer un peu, est-ce que c'est de la façade ou bien est-ce que vous vivez vraiment cette joie qu'on ressent ?
C'est pas de la façade du tout. Autrement, Marie-Françoise... Tous mes amis, tous ceux qui me l'auraient dit. Mais c'est quelque chose que j'ai été complètement renouvelé dans ma foi. J'ai fait vraiment l'expérience de ma fragilité, de ma pauvreté. Avant, parce que je fais beaucoup de vélo, de compétition. J'étais plutôt attaché à la performance. Et là, j'ai accepté de ne plus performer, mais vraiment de goûter la beauté de ce que je vois. Par exemple, quand je fais du vélo, je regarde la nature maintenant. Avant, j'étais la tête baissée, et puis je fonçais, je regardais pas trop la nature. C'était vraiment... Ce qui me motivait, c'était justement le temps que j'allais mettre pour telle distance. Et maintenant, je vois les choses beaucoup autrement. Je prends le temps de... La prière m'aide beaucoup. Je prends le temps d'observer. Je prends le temps d'écouter. C'est vrai que ça a changé ma vie.
Marie-Françoise, vous me disiez juste avant de commencer, nous sommes dans l'offrande.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a du lâcher prise ? Il y a une espèce de détachement ? Sans indifférence hein, sur la vie, mais... C'est quoi l'offrande dont vous parlez ?
Ben, voilà, ça c'est dur, je te l'offre, Seigneur, tout simplement.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas le déni de la souffrance. C'est quand ta vue humaine, on n'y arrive pas.
Et du coup, c'est presque un exercice de s'habituer à dire les petites contrariétés. Il n'y a pas que la souffrance, les contrariétés, ben, les offrir. Seigneur, ben, je t'offre ça. C'est tout simple. Hein.
Alors, vous disiez que vous n'avez plus le sens de la performance, Michel, sauf que j'ai l'impression que votre vie, c'est quand même une vie d'activité, pas de suractivité, je ne sais pas, vous allez nous dire. Mais enfin, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous faites du vélo ?
Oui.
Ping-pong encore ?
Oui.
Guitare ? Tous les jours ?
Du chant.
Chant ?
Oui.
C'est important, cette hygiène de vie, de dire « je ne vais pas me mettre dans mon fauteuil, il faut que je me bouge ».
Je me bougeais déjà avant d'avoir le diagnostic de ma maladie.
C'était déjà votre caractère de vous bouger.
Je faisais des courses cyclistes,
oui.
Ce qu'on appelle comme l'étape du Tour de France avec des cols pour les cyclotouristes.
Oui.
Donc j'ai toujours gardé, j'allais au vélo au travail, il y avait 18 km, mais j'y allais tous les jours au vélo. Et même quand il pleuvait, ça m'arrêtait, ça me freinait pas. Voilà. J'ai toujours été comme ça.
Mais aujourd'hui, peut-être que ça vous permet de lutter contre la maladie.
Justement, le traitement de la maladie de Parkinson, il y a bien sûr les médicaments. Mais l'activité physique, c'est 90% du traitement, on dit maintenant. Vous vous rendez compte, 90%, c'est les neurologues qui disent ça. Parce que ça permet que les symptômes de la maladie ne progressent moins vite. Voilà, donc c'est une maladie dégénérative, la maladie de Parkinson. On ne peut pas la guérir. On n'a qu'un traitement palliatif. Palliatif, ça veut dire on soigne les symptômes de la maladie, mais on ne peut pas soigner la maladie elle-même puisqu'on n'a pas de traitement. C'est pas les recherches continuent, mais pour l'instant, on n'a pas de données précises. Et l'activité physique est très 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 indiquée dans le traitement de la maladie de Parkinson. Or, donc, je m'en prive pas parce que là, je joue au ping-pong deux fois par semaine. J'ai du vélo, j'en fais tous les jours. Souvent, on me voit dans les rues de Lourdes, mais je circule toujours en vélo. Et puis aussi, un peu de la marche. Et puis, tout ce que je peux faire, je le fais. Par contre, ce que je trouve maintenant, parce que ça fait 8 ans que je suis diagnostiqué, je mets plus de temps pour faire les choses. Ça me demande plus d'énergie. Voilà, mais je lui dis, il ne faut pas se décourager, donc il faut continuer.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission témoignage avec Marie-Françoise et Michel Panhard. Nous marquons cette pause et juste après, nous nous retrouvons pour continuer à dialoguer avec vous.
Présence
de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nos invités sont Marie-Françoise et Michel Panhard qui ont cette liberté de témoigner sur vivre avec la maladie de Parkinson. Puisque, Michel, vous avez été diagnostiqué en 2016, je crois.
Oui, c'est ça.
Et il faut vivre avec. D'abord, vous avez eu ce temps de déni durant lequel vous refusiez d'accepter, en fait, parce que vous aviez une image, disiez-vous, du malade de Parkinson qui était une image dégradée. Et puis, vous avez basculé dans toute autre chose. Ça a donné lieu d'ailleurs à la composition, à l'écriture d'une chanson.
Oui.
Qui s'intitule Parkinson, un mot qui résonne.
Oui.
J'aimerais que vous nous en chantiez un extrait, si vous le voulez bien, Michel, parce que ça a marqué finalement un changement profond de regard, d'attitude sur cette maladie, sur votre condition. Je crois que vous me disiez que vous vous entraînez tous les jours, une heure par jour, à garder l'agilité des doigts.
Oui, c'est ça, oui.
Parce que c'est dur hein, de garder cette agilité des doigts.
Oui, c'est ça.
La maladie étant là. Et donc là, vous l'avez composée en quelle année, cette chanson ?
Alors, je l'ai composée en 2016. Et je suis allé, donc, la nuit qui a suivi cette rencontre que j'ai eue avec l'association France Parkinson, qui est tous ces danseurs-là, qui ouais. est remplie de joie. Et je suis allé, j'ai pris rendez-vous avec la responsable de ce groupe, pour la semaine d'après. Ouais. Et je suis venu avec ma chanson. Et je lui ai chanté la chanson.
Eh ben voilà, vous allez nous la chanter.
Parkinson, c'est un mot qui résonne. Par ce mot, c'est ma vie qui détonne. Un vent nouveau m'emporte et je fredonne. Ma vie n'est pas monotone. Je 60% que de couplets.
Ouais, non, on a envie d'entendre la suite, mais c'est vrai que cette émission ne nous permet peut-être pas d'entendre tout votre répertoire, parce que je vois que vous en avez composé des chansons, Michel.
Je n'ose pas vous dire le chiffre, parce que vous allez dire il est prétentieux.
Non, mais dites...
Plus de 200.
Plus de 200 compositions. Et vous êtes autodidacte, en fait, en guitare.
Oui, surtout dire là j'ai eu du mal à faire mes accords là quand j'ai chanté, mes doigts ne suivent pas toujours. Bon, mais voilà, il faut que j'accepte aussi mes pauvretés.
Alors vous êtes très accordés l'un et l'autre, hein. On sent que vous avez l'habitude de chanter ensemble.
On travaille ensemble, oui.
Vous faites beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'initiatives, vous les prenez ensemble.
Oui, on fait beaucoup de choses ensemble.
Oui. Et en même temps, on a aussi notre indépendance. Hein.
Chacun son caractère, voilà, son indépendance. Voilà.
C'est très différent.
Oui, on a.
Je dis toujours, il faut vraiment qu'on s'accepte avec nos différences.
Oui.
Voilà, quand on a un couple, nos différences nous enrichissent.
Oui. Donc, vous avez été infirmier durant toute votre vie, Michel. Ça, c'est ce qui a précédé toute cette vie avec la maladie de Parkinson.
Oui.
Vous avez exercé pendant combien d'années le métier d'infirmier?
Dans les soins infirmiers, cadre de santé 10 ans, infirmier 22 ans. Ça fait à peu près 42 ans tout, dans les milieux hospitaliers, aux cliniques.
Un peu de libéral aussi.
Oui, j'ai fait du libéral aussi pendant 7 ans dans ma
carrière. Quel rapport vous entretenez avec la question de la personne humaine, de la place de la fragilité, de toutes ces questions aussi qui traversent nos sociétés aujourd'hui sur comment on accompagne les gens en situation de souffrance, de fragilité jusqu'au bout. Vous-même, vous avez vécu cette expérience avec votre maman que vous avez gardée à la maison.
Oui, elle est restée 12 ans à la maison. Et je l'avais les derniers mois de sa vie, même la dernière année, j'étais en soins palliatifs. Elle était en fauteuil roulant, donc je me suis occupé d'elle, j'ai lui donné les soins. Et Marie-Françoise, bien sûr, m'a beaucoup soutenu. Mais...
Ça peut paraître, dans notre société, un témoignage qui va à contre-courant, ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, quand même, on essaie de cacher la faiblesse. On essaie même de l'éliminer parfois, entre guillemets, sans vouloir éliminer les personnes, mais on veut reconstruire des êtres parfaits. Or, vous dites, Michel, je vis avec mes faiblesses et finalement j'en fais des forces.
Oui, c'est une force de d'accueillir ces faiblesses, parce que on va à l'essentiel, on parle avec son cœur. On n'a pas besoin de paraître, il suffit simplement d'être. Et j'ai dit dans une des chansons, j'ai dit la plaie que l'on voudrait cacher, car elle n'est pas cicatrisée, nous invite à l'humilité pour accueillir nos pauvretés. Et pourquoi porter une armure pour se préserver des blessures? Notre vulnérabilité a un parfum d'éternité.
Marie-Françoise?
Oui, je voulais parler de ma belle-mère qu'on a eue à la maison, qui était effectivement en fauteuil roulant, et qui était une femme de la campagne, puisque les parents de Michel étaient agriculteurs, avec beaucoup de bon sens. Et à ce moment-là, on avait encore les enfants ados à la maison. Et elle a eu beaucoup de rayonnement. Tous les amis des enfants venaient la voir. Tout le monde l'appelait Mémé. Et tout le monde venait voir Mémé. Et elle avait vraiment un rayonnement, même auprès des jeunes qui venaient, des amis des enfants.
Oui, elle était dans la transmission de valeurs, sans s'en rendre compte.
Oui, avec un bon sens paysan, avec et puis une écoute, vraiment quoi.
Ce que vous nous dites là, Michel, vous l'avez découvert de façon accidentelle, si je puis me permettre. Parce que au moment où vous rencontrez la foi, même votre métier, à chaque fois, en fait, c'est parce que vous trébuchez qu'il se passe quelque chose dans votre vie.
Oui, parce que je suis devenu infirmier par accident.
Oui, vous chute de vélo, grave.
Chute de vélo, assez grave, oui. Je me retrouve à l'hôpital dans une salle commune où il y avait six patients qui étaient gravement atteints aussi. Et le premier jour, je me mettais sous les draps parce que je ne voulais pas voir, ça me faisait peur. Et au bout d'une semaine, j'ai observé. Je fais un stage d'observation et je me suis dit, mais c'est ce métier-là que je veux faire.
Et donc, c'est dans cette difficulté, après cet accident, que vous trouvez votre vocation d'infirmier.
Oui, exactement. Et je veux dire, c'est un métier que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup fait d'accompagnement de personnes en fin de vie. Et j'ai beaucoup de témoignages sur. Je peux vous donner un témoignage un jour d'un accompagnement. Une personne qui était en fin de vie, et j'avais son épouse qui était dans une chambre. Dans une chambre d'hôte, et la nuit où j'étais de garde, ce monsieur est décédé. Et je devais aller annoncer à son épouse que le décès de son mari. Et quand je suis arrivé, j'ai frappé à sa chambre. Quand m'a ouvert la porte, elle a compris tout de suite. Elle s'est jetée dans mes bras et s'est mise à pleurer. Et moi, très touché. On nous dit qu'il faut laisser ses émotions de côté. Mais je ne peux pas laisser mes émotions de côté. Là, j'ai pleuré avec elle. Et on ne s'est rien dit. Tout s'est passé en silence. Mmh. Et il se trouve que je reçois une lettre une semaine plus tard. Elle me dit que vos larmes m'ont fait du bien. Que vos larmes m'ont fait du bien. Une lettre vraiment très très belle lettre, mais c'est cette phrase que j'ai retenue, que vos larmes ont fait du bien. Et on s'était rien dit. Et ça a été un tournant dans ma prison, dans ma carrière de prendre soin des malades, être à l'écoute, voilà, ne pas trop parler, mais savoir écouter. Qu'est-ce que le malade veut nous dire? Quel est son chemin de vie à lui? Et non pas nos idées à nous qu'on plaque comme ça.
Dans les quelques minutes qui nous restent, évidemment, on aurait pu consacrer beaucoup plus de temps à votre témoignage. Il nous faut parler de la communauté de l'Emmanuel.
Oui.
Parce que c'est aussi un peu l'histoire de votre rencontre à Aix-en-Provence, c'est ça?
Oui, à Aix-en-Provence, oui.
Vous avez d'abord beaucoup composé aussi la musique pour évangéliser, dans le cadre aussi de la communauté de l'Emmanuel,
oui.
L'évangélisation aussi et l'annonce de la foi auprès des enfants. Et ça aussi, ça a compté dans votre vie, cette vie d'apôtre.
Oui, en même temps, quand on s'engage dans la communauté d'Emmanuel, on s'engage aussi, on se donne pour la mission. La mission, elle est toujours omniprésente dans la communauté d'Emmanuel. Notre fondateur, Pierre Goursat, qui est vénérable, Pierre Goursat, nous disait toujours, allez mes petits autos, il faut y aller, il faut que ça brûle. Il faut que l'amour transmettez cet amour de Dieu que vous avez reçu, ne le gardez pas pour vous. Voilà.
Marie-Françoise.
Et une des dernières fondations dans la communauté de justement Pierre Goursat, c'est la Croix Glorieuse. Et bien c'est... Ce sont toutes les personnes souffrantes qui sont dans la communauté, il y en a, atteintes de maladies comme Michel, qui ont une nouvelle mission, justement, d'offrir cette souffrance, d'offrir ça, pour ceux qui sont au front, pour les autres communautaires qui sont plus actifs, qui sont voilà, sur le front. Donc
oui, relier ceux qui sont en capacité d'avoir un peu de zèle, enfin d'être dans l'activité, à ceux qui ne le peuvent plus ou différemment.
Voilà. Parce qu'on se disait, beaucoup se disaient, moi, j'ai plus les forces pour suivre le rythme communautaire, alors ma place n'est plus dans la communauté. Et alors que c'est totalement faux. Pierre Goursat a eu cette intuition de dire, mais non, vous êtes précieux pour la communauté. Parce que vous offrez vos souffrances à Dieu, à Jésus qui est sur la croix, et lui, il les prend sur lui, et à la force de la résurrection. Voilà. C'est pour ça qu'elle nous conduit à la joie, parce qu'il y a toujours cette résurrection du Seigneur nous trace un chemin de vie.
C'est la résurrection aussi, Seigneur, qui nous trace un chemin de vie. Je propose qu'on termine sur cette phrase. Merci beaucoup pour votre témoignage à l'un et l'autre.
Merci.
Et puis on vous souhaite du courage quand même aussi, avec tous ces exercices physiques que vous faites chaque jour. Vous aussi, Marie-Françoise,
pour tous ces... Je ne dis pas que c'est facile. Il faut tous les jours se prendre en main. Il faut
oui.
se dire, voilà, ben, j'y vais. Et si ça peut donner du courage à tous,
tous ceux qui nous voient ou qui nous écoutent, qui vous écoutent.
Des malades qui ont du mal.
Ouais.
Voilà, il faut pas rester seul non plus. Il faut se faire aider.
Voilà. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape proche des victimes des inondations au Népal et au Tibet. Sur place, les secours.